Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Carapatage, l'émission contre toutes les cages. De 20h30 à 22h, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Ce soir, on va discuter d'un bouquin sur la prison qui s'appelle « Un peu de bon sens, que diable ». Mais avant ça, moi c'est Avril, et je vais vaguement animer cette émission ce soir, et je suis pas tout seul.
Salut, c'est Gomme.
Salut, c'est Alix.
Et à la technique.
Pitou, salut.
Et pour parler de ce bouquin, on a des invités avec nous.
Salut. Salut.
Salut.
Si vous pouvez nous contacter, si vous le voulez, en direct, pendant l'émission, au 01 43 71 89 40, Pitou se fera une joie de vous répondre. Mais aussi par mail, à tout instant, à carapatage@riseup.net, par courrier au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris, et aussi on a un Instagram, @carapatage. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre blog carapatage.noblogs.org, avec la playlist qui l'accompagne et quelques sources qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et avant de parler du livre, on va parler un peu d'actu. Et notamment d'une nouvelle émission anticarcérale qui fait ses débuts à Marseille. Et cette émission qui s'appelle La Courte Échelle, elle a lieu tous les dimanches de 19h30 à 20h sur Radio Galère. Et pour l'instant, ils ont fait deux émissions. La première qui parlait un peu des moyens de rentrer en contact avec les prisonniers. Et une deuxième qui a eu lieu dimanche dernier, dans laquelle deux personnes du centre de rétention administrative de Marseille racontent un peu leur grève de la faim et leurs conditions de détention. Et Gomme, tu voulais nous parler de centre de rétention aussi.
Oui, de plans qui ont été publiés sur le blog Abat l'Écra. Du coup, voilà, ils ont une page... où ils se proposent de publier tout un tas de plans et de schémas de centres de rétention glanés sur Internet. Je vais juste lire un petit extrait de l'explication du projet de publier ces plans. La structure et le fonctionnement de ces lieux sont volontairement gardés opaques pour empêcher les personnes qui sont à l'intérieur d'en sortir et les personnes à l'extérieur de s'y attaquer. Pourtant, certaines informations sont publiques, même si elles sont difficiles d'accès. C'est le cas des plans de certains CRA qui se retrouvent parfois sur Internet. Et du coup, ils font aussi un appel à contribution s'il y a des personnes qui tombent par hasard sur des trucs intéressants de type plan, schéma, voilà. Donc on mettra le lien de Abat l'Écra sur notre blog.
Et toi, Alix, tu veux nous parler d'une brochure?
Ouais. Du coup, c'est une brochure qui est sortie au mois d'octobre qui s'appelle « Bruit et saccage, texte et communiqué d'action contre les constructions de prisons ». Et du coup, la brochure, elle reprend des informations générales sur le plan prison, des infos plus détaillées pour quelques villes en particulier et des communiqués d'action anticarcérale qui ont eu lieu. Et voilà, du coup, elle regroupe tout ça dans le but de rendre visible un peu ce qui se passe. Et en terminant son introduction en disant « Une prison qui ne se fait pas, ce sont autant de cellules qu'on n'aura pas à détruire ». Donc voilà, c'est vraiment contre la construction des tôles qui sont prévues dans le plan prison.
Et on retourne sur le centre de rétention à Ménilamlo en particulier.
On avait parlé le mois dernier de ce qui s'est passé cet été au centre de rétention du Ménilamlo, du coup en région parisienne à côté de l'aéroport de Roissy. Donc cet été, il y avait eu notamment deux mutineries dont on avait parlé. Et un peu suite à ça, récemment, il y a des travaux de sécurisation du bâtiment qui sont en cours. Donc ils sont en train notamment de rehausser le mur du chemin de ronde, de grillager les cours de promenade et ils construisent des nouvelles cellules d'isolement. Du coup les cellules où ils enferment les gens comme punition, notamment quand il y a des révoltes. Le fait qu'il y ait ces travaux, ça fait qu'il y a des transferts permanents entre les différents bâtiments. Du coup il y a trois CRA au Ménilamlo, il y a CRA 1, CRA 2, CRA 3, et du coup les gens sont à l'intérieur, sont baladés d'un CRA à l'autre en fonction de l'avancée des travaux, quoi. Quand un CRA, quand il débute les travaux dans un des bâtiments, il transfère tout le monde dans un autre. Et aussi depuis le 12 septembre, il y a quatre officiers de police judiciaire qui sont présents à temps plein dans le CRA pour pouvoir placer les retenus en garde à vue directement sans avoir besoin de les amener au commissariat. Et du coup, pour ça, ils ont aussi un nouvel espace prévu à cet effet qui a été construit ou aménagé dans le centre de rétention. Ce qui fait que voilà, les gardes à vue se passent directement dans le CRA. Ce qui monte bien, ce qui va dans le sens de toujours plus carcéraliser les centres de rétention. Voilà, on dit toujours, de toute façon, pour nous c'est des prisons, mais c'est toujours de plus en plus évident, quoi. Et voilà, c'est ça ce que j'avais à dire sur le Ménilamlo.
Ok, moi je vais vous parler d'un compagnon en Italie, Alfredo Cospito. C'est un compagnon anarchiste italien qui est en prison depuis près de 10 ans maintenant, notamment pour avoir tiré dans la jambe du patron de la principale entreprise de centrales électriques en Italie. Et il a aussi été condamné dans le cadre d'une grosse affaire répressive récemment qui s'appelle Scriptamanant. In fine, il a été condamné pour massacre politique, qui est le crime le plus haut en Italie. Sachant que c'est un truc, ça a commencé par, l'enquête, c'était une enquête pour association de malfaiteurs et qui visait notamment, des explosifs dont certains ont explosé sans aucune victime, personne qui était blessée. Je vais pas m'attarder là-dessus. Vous pourrez trouver en lien sur le blog un article qui en parle plus longuement. Toujours est-il que c'est un crime qui est puni de perpétuité. Alfredo, il a été transféré à la prison de Bancali en Sardaigne. Et depuis le début mai, il subit le régime 41 bis, qui est en Italie le régime le plus dur de détention. Par exemple, qui autorise qu'un parloir par mois, à travers vitre, sous surveillance et intégralement enregistré. Et comme autre contact, seulement le téléphone, uniquement au cas où le parloir n'a pas pu avoir lieu. Et les gens qui veulent lui téléphoner doivent se rendre chez les carabinieri, qui est l'équivalent de la gendarmerie ici, ou dans une autre prison. Et il a droit à une heure hors de sa cellule par jour, en compagnie de un à trois autres prisonniers qui sont choisis par les autorités. Et du coup, Alfredo, il vient d'entamer une grève de la faim contre ce régime 41 bis, en annonçant que ça se terminera soit par la fin de ce régime 41 bis, soit par son décès. Et depuis, il y a deux autres compagnons, Juan qui est enfermé à la prison de Terni en Italie, et Ivan à Villepinte, qui ont entamé une grève de la faim en solidarité avec Alfredo. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment depuis fin septembre. Il y a eu un certain nombre de rassemblements de solidarité qui ont eu lieu devant des prisons, devant le... Je sais plus comment ça s'appelle. Le truc qui gère le 41 bis, j'ai perdu. Vous pourrez trouver pareil sur l'article, je suis navré. Vous pourrez trouver sur le blog le bâtiment en question. Mais il y a aussi eu des occupations comme celle du siège d'Amnesty International à Rome. Des blocages de circulation, l'interruption d'une conférence à l'ambassade de France à Gênes, des attaques contre des constructeurs de prisons à Hambourg, des tags à Milan. Bon, c'est juste quelques exemples. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Il y a aussi d'autres rassemblements qui vont avoir lieu dans les temps à venir devant des prisons qui ont des quartiers 41 bis à Pise, Parme, Terni ou Cuneo. Et sans doute, il y en aura d'autres ailleurs. Je vous invite à regarder si des choses vont se passer vers chez vous et, même si rien ne se passe, à montrer votre solidarité par les moyens que vous préférez.
Et, ouais, du coup, juste avant de faire la dernière brève, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais la brochure, du coup, de Bruit et Saccage, on mettra le lien sur notre blog aussi et elle est téléchargeable. Elle est en ligne sur plusieurs sites Mutu et sur Paris Lutte Info, entre autres, si vous la cherchez. Et on voulait aussi parler de la manif qui va avoir lieu le 5 novembre, ce samedi, à Saint-Denis. Donc c'est la manif, la marche Vérité et Justice pour Yanis. Yanis, c'est un jeune de la plaine Saint-Denis qui est décédé en 2021 alors qu'il avait 20 ans. Après plusieurs semaines dans le coma après un accident de scooter où il avait été poursuivi par la BAC et où il est décédé sur l'autoroute suite à cette course-poursuite. Les conditions, ça reste peu clair et la famille pointe des incohérences et le non-accès aux vidéos où on lui a toujours pas dit ce qui s'était passé et qui avait percuté Yanis. Du coup, elle demande l'accès aux vidéos, la fin des poursuites des deux roues. Et donc voilà, elle demande un certain nombre de choses en lien avec l'affaire de Yanis et plus largement de marcher contre les violences policières et pénitentiaires. Donc cette marche, c'est ce samedi 5 novembre. Il y a un premier rendez-vous à 13h à Pont-de-Soissons, à Saint-Denis, où à partir de 13h30 à Porte de Paris, il y aura les prises de parole et la marche jusqu'à la mairie.
Eh bien, on va pouvoir commencer la thématique principale après une petite pause musicale. Vous avez écouté ça, Bax and Them.
Everyone on the trains, everybody in their cribs, everybody in the clubs, you drown in your whips. I want you to pump this shit right here. Psychological records, box and dumb. Yeah, all my real life soldiers, put your fist up. All the players in the club, hold your drinks up. To the people in the struggle, ready to fight. To the Asians, the ladies, the blacks and whites. To my thugs in the hood, who was bending.
Ben c'est parti, on attaque. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. La prison attaque tous nos sens, que ce soit par le fracas, la bouffe insipide, la promiscuité, La prison pue est sale, bruyante et uniformément moche. Nos sens peuvent se trouver durablement impactés par l'enfermement. C'est d'ailleurs le sujet de ce livre qui s'appelle « Un peu de bon sens, que diable ». Mais loin de se contenter de décrire l'impact que la tôle peut avoir sur nos sens, ce bouquin s'en sert pour décrire la prison elle-même et son fonctionnement. Et si la prison éprouve et nique nos sens comme c'est écrit dans le bouquin, ils n'ont pas pour autant disparu et ils sont même des points et des signes de résistance et même d'insolence face à l'enfer carcéral. Ça vous va comme résumé du bouquin ?
Parfaitement.
Et du coup, il vient d'être réédité chez Niette Édition. Et du coup, il avait la première édition, elle date de...
D'il y a une vingtaine d'années. De 2004, il me semble. Je crois que c'est ça.
Et l'idée vous est venue comment ? Ça a commencé par un petit journal ?
En fait, on avait créé un collectif qui s'appelle La Brèche, donc qui a commencé à être actif tout début 2001. Et ça a commencé d'abord par une émission de radio, donc qui était sur Radio Campus Lille. Et voilà, après quelques temps de fonctionnement de cette émission, il y a un journal mensuel qui s'est créé, qui permettait de donner un support à ce qui était dit à la radio, c'est-à-dire des infos sur l'actualité carcérale, aussi émettre une critique abolitionniste et faire savoir un peu voilà les luttes qui pouvaient être en cours et qui sur lesquelles on essayait de voilà d'initier un certain soutien. Et donc dans ce journal qui a été publié entre novembre 2003 et juillet 2005, il y a eu à un moment donné une série de textes sur sur les sens. Et donc le bouquin qui est réédité aujourd'hui est une réédition de ces textes qui sont parus d'abord dans ce journal, puis ensuite sous la forme d'un premier livre. Voilà.
Et du coup, cette première édition, c'était une auto-édition, c'est ça ?
Complètement. Ouais, l'idée, c'est qu'on a à peu près tout fait. C'était un peu artisanal, on peut le dire. De la même manière que le journal dont on parle et qui s'appelait la Line 12B, là, qui est juste le titre, c'était la référence du bus qui allait jusqu'à la prison et que tout le monde connaissait pour aller jusqu'à la prison. Du coup, c'était parlant dans les alentours de Lille. Et de la même manière qu'on faisait ce petit journal qui était un fanzine photocopié, on a fait un livre qui était... fait avec les moyens du bord qui est, ouais, bon, voilà.
Et du coup, vous voulez raconter un peu sur la diffusion de cette première édition et aussi du journal hein, où est-ce que c'était diffusé et...
Un peu évoqué déjà, mais... L'idée, au-delà de relier ce qu'on disait dans l'émission de radio, c'était aussi avoir un contact et quelque chose à distribuer au parloir, puisque c'était une des activités principales de La Brèche. Au-delà de ce journal et de l'émission, c'était vraiment aller toutes les semaines au parloir, donc de Loos, la prison de Loos à ce moment-là, mais aussi quelques prisons autour. Surtout quand on a sorti en fait le bouquin, on s'est dit qu'il fallait le diffuser. Du coup, on a fait à peu près toutes les tôles de la région. Mais donc l'idée, ouais, c'était d'avoir quelque chose à donner pour prendre contact, aussi pour essayer d'avoir des dédicaces et puis que l'émission soit écoutée, et que du coup il y ait beaucoup plus d'interaction entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc voilà, toutes les semaines, on se pointait avec ce journal qui était fait une fois par mois. Et au bout d'un moment, on a arrêté de faire le journal parce que on s'épuisait un peu là-dedans. Mais on s'est dit qu'il nous fallait absolument. On s'était quand même aperçu que c'était un bon support et que c'était quelque chose qui engageait la discussion et ça marchait plutôt bien. Et on s'est dit pourquoi pas, vu qu'on avait eu quelques retours sur les articles sur les sens et que pour nous, ça faisait pour le coup sens de distribuer ça, notamment parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et que ça. Ouais. ça parlait bien. Du coup, on s'est dit, on va en faire un bouquin. Et voilà, on a continué d'aller au parloir et on a cette fois diffusé le bouquin gratuitement pendant quelques mois à Los, mais aussi à Dunkerque, à Arras, à Valenciennes, principalement jusqu'à Maubeuge et une fois à Longuenesse. Bon, bref, on a écumé un peu toutes les prisons du coin. Aussi, en prenant soin de choisir les prisons où l'émission de radio pouvait être écoutée et entendue. Voilà.
Ouais, on peut préciser que le bouquin, il n'était pas du tout distribué dans les librairies. Enfin, l'idée, c'était pas non plus de rester dans un secteur, enfin dans un réseau militant. Et voilà. Donc, la première édition est différente de la deuxième, de celle d'aujourd'hui, qui passe par des circuits beaucoup plus classiques. Mais on pourra revenir dessus aussi tout à l'heure sur les modes de diffusion de ce bouquin aujourd'hui.
Mais il y a à peu près, je sais pas en nombre, mais c'est quelques dizaines de bouquins qui ont été diffusés ailleurs, parce qu'évidemment, il y avait des gens qui étaient intéressés à droite à gauche dans d'autres émissions. Il y a eu vraiment très très peu de bouquins qui sont sortis de Lille et qui n'ont pas été distribués au parloir. Donc c'est presque une chance au final qu'ils soient atterris dans les mains de personnes, et notamment à Marseille, donc très loin de Lille.
Il a bien voyagé quand même.
Ouais, semble-t-il. Mais peu d'exemplaires qui ont été beaucoup lus et...
Combien d'exemplaires d'ailleurs ? C'est la première édition ?
Je crois qu'on en avait fait un petit millier ou quelque chose comme ça.
Je pense que c'est entre 900 et 1000, ouais.
Et le journal, il était tiré à combien d'exemplaires ?
C'était vraiment aléatoire selon les plans qu'on avait de photocopie et de temps disponible pour les diffuser, etc. Mais ouais, c'était pas. Je ne saurais pas dire un chiffre, mais ce n'était pas énorme.
Ouais, c'était une centaine, je pense, pas au-delà. Mm. Et c'était... Comme le bouquin, il était gratuit, et c'était, je pense, quelque chose d'essentiel pour qu'il y ait le contact, etc. On fonctionnait vraiment avec beaucoup de bidouilles, et tous les plans... on n'avait, je crois, jamais payé vraiment de photocopie, mais du coup, c'était aussi beaucoup de choses à côté, comme tous les collectifs anticarcéraux ou autres. Hein, on passe par beaucoup de temps passé à essayer de bidouiller, quoi.
Après, il n'y a jamais eu une intention de diffuser en nombre avec un objectif chiffré. Aussi avec l'idée que, on était conscient que y avait des gens qui pouvaient prendre le journal et pas forcément le lire, et que finalement c'est pas si important que ça, que le parcours vite fait, etc. Ça suffit. Et surtout, c'était un moyen de faire le lien, et puis qu'on revienne de semaine en semaine et de mois en mois, etc. Ça donnait aussi aux gens quand même une forme de confiance envers ce qu'on essayait de faire et de distiller. Comme idée, quoi.
Du coup, à la brèche, vous vous occupiez de tout le contenu, ou après il y a eu un peu des contributions de personnes que vous rencontrez au parloir, justement, des contributions de l'intérieur, ou... Là, vous avez fait, c'était vous principalement qui étiez dans le contenu.
Pour la ligne 12B, c'était principalement nous, notamment parce que pendant tout le moment où on a diffusé ce journal, on avait très peu de retours, très très peu. Et par contre, quand on a fait le bouquin, on a commencé à avoir un peu plus de correspondance et d'appels téléphoniques pendant l'émission, etc. Du coup, le bouquin s'est enrichi. Il n'y a pas juste les textes qui sont parus dans la ligne 12B, mais il y a également des lettres de prisonniers avec qui on correspondait sur le thème d'essence, parce qu'on les avait sollicités, et aussi des annexes, quelques annexes. Mais... Effectivement, c'est à partir du moment où ce bouquin est paru qu'on a eu le plus de liens avec l'intérieur.
Et tu disais que vous aviez un peu parlé avec de cette idée d'écrire des textes sur la question du sens en prison avec des gens par correspondance qui étaient à l'intérieur et tout. Ça... Et l'idée d'aborder la prison par cet aspect-là, elle vous est venue comment, et elle s'est construite, et comment est-ce qu'elle s'est construite aussi
L'idée pour le journal, c'était qu'il y ait à la fois des brèves, un peu comme ce que vous faites là, et puis des textes un peu plus... un peu plus poussées, enfin fouillées, etc. Essayer de diversifier les approches vachement. Du coup, il y avait des choses très militantes, des choses très cash, d'autres moins, etc. Il y a eu des interviews, enfin bon, il y a eu plein de choses différentes. Et puis l'idée est venue à un moment donné de se dire que l'essence, ça parlait à personne et de fouiller un peu ça. Aussi de travailler le côté épisode qui revenait de mois en mois. Et du coup, ça permettait aussi ce truc de on attend la suite, tout ça. Ça nous parlait plutôt. Comment ça s'est construit, c'est que pour le coup, on était plusieurs à écrire dans ce petit journal. C'est moi qui ai pris en charge la rédaction de ces articles, qui se nourrissaient principalement de correspondances avec des personnes à l'intérieur. Et après, de quelques sources, au final, assez peu de sources de bouquins ou d'articles qui paraissaient ailleurs. Et voilà, ça s'est fait assez vite. C'était tous les mois. Il n'y a pas eu beaucoup de préparation, au final. Il n'y avait pas, pour le coup, surtout sur le premier, là, on est très très loin de... d'un truc universitaire ou sociologique ou ouais, c'était un peu brut de décoffrage, et je pense que c'est aussi l'intérêt de ce bouquin, ce pourquoi il a eu un bon écho. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez sur une écriture un peu décalée, un peu déconstruite comme ça, mais qui déjà fait écho au sens, j'ai l'impression, et puis encore une fois qui marche, qui a l'air d'avoir assez bien marché. Voilà. Bon.
Du coup, c'est le contenu, ça vient de, tu dis, de correspondance que tu avais, que vous aviez par dans le cadre du collectif, ou aussi c'est des choses qui dataient d'avant. Enfin, des liens qui préexistaient et qui ont peut-être aussi motivé le fait de monter un collectif anticarcéral, je sais pas.
Sûrement. Là, je sais pas trop comme ça, mais en tout cas, effectivement, ça s'est nourri de correspondances ultérieures à la rédaction des articles, ça c'est certain. Et de fait, le fait de correspondre avec des gens à l'intérieur, ça a participé, oui, je pense, à... d'une certaine manière à créer ce collectif. Ouais.
Mais pour autant, les gens qui sont investis dans le collectif n'étaient pas tous déjà en correspondance avec des personnes à l'intérieur. Et en fait, au moment où ça s'est créé, c'est une période où il y a eu pas mal de collectifs un peu comparables qui se sont créés ailleurs en France. C'était quelques mois avant la création de l'Envolée. C'était un sujet qui était... enfin, la tôle prenait était un sujet qui était quand même très présent dans les discussions, dans les écrits et d'une manière générale dans les milieux anars. Et alors aujourd'hui, il y a encore pas mal d'émissions qui se font, il y a des journaux, etc. Mais voilà, c'était d'une certaine manière peut-être un sujet qui était mis plus au centre de, d'une réflexion globale de critique sur la société, le capitalisme. Et du coup, voilà, pour certains, ça pouvait être la suite de correspondance ou d'un lien avec des personnes à l'intérieur. Pour d'autres d'entre nous, c'était pas ça, c'était plus parce que ça faisait sens de s'engager sur cette question-là qui nous semblait être à la fois la prison comme l'apogée de toutes les formes de domination, mais aussi comme le pivot autour duquel peut tenir cette société-là et une société de classe qui joue beaucoup autour du rôle de la prison comme épouvantail pour que chacun tienne sa place et marche droit. Et voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient dans le collectif, qui avaient des personnes de leur famille qui se trouvaient en tôle. Enfin, on avait vraiment des implications très différentes les uns les autres quant à nos contacts avec la prison, quoi.
Et ben, on pourra continuer peut-être plus sur le livre aujourd'hui et après un petit peu de musique. Coma artificiel de Hugo TSR.
On pourrait voir cette ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent, ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois j'oublie le passé, cervelle cassée, moi je vis sans trop de logique. Encore un son qu'il faudrait placer sur ce qu'un cantologie. Y'a du shit quand y'a plus de zèbre, face au verre on tisse cul sec. Fumette des buvettes, nous on s'empête, du Audi QZ. Parfois pressé, toujours précis, j'opère à la Niptuck. Collage de speed dans le bâtiment, c'est la cannabis cup. Défoncé comme ma plume, les ongles noirs, des jeux de squelette. Une sale allure, j'suis comme la lune, j'me couche à l'heure où le jour se lève. Si t'as fini ton verre à l'aise, on remet ça comme la danette. Une vie pas nette, là c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack Daniel. Si tu le savais le pitch, tu me tentes à faire de la merde, les flics te sentent. Mec, tu vas te perdre au fil du vent. Si tu te la pètes depuis que tu vends, j'ai plus de polliage et si du clan. On voit le porin en tutu blanc, j'suis pire que l'orage, j'suis à l'aise. Alors j'avance dans leur apprenti, tu bans. Dans la tête, c'est gauche, droite, des poches, tard, des grosses barres. Pas de galette des rois, ici y'a que la galette des clochards. Sous les graves, y'a de la haine sous les doigts, c'est bientôt l'examen du foie, on révise tout. Les soirs, ils veulent nous traîner dans la boue. On a le blues, les poumons calcinés. Demande à nounou, c'est pas toujours de la bouffe qu'à sur la gazinière. Quand les standards s'entassent, que le foie est plein d'entailles. Moi et ma taille, c'est le grand amour. Et tous les soirs, c'est la Saint-Valentin. Y'a plus une ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent. Ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois, j'oublie le passé, cervelle cassée. Moi, je vis sans trop de logique. Encore un son qu'il faudrait placer sur ce qu'un cantologie.
Vous venez d'écouter Hugo TSR, Coma artificiel. Et du coup, on a parlé un peu de la première édition de ce livre et le journal qui l'a précédé, et qui date de un certain nombre d'années déjà.
Une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années.
Eh oui.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de le rééditer aujourd'hui?
Bah, très sincèrement, l'initiative est plutôt venue des gens de Niette, enfin, ceux qui nous ont relancé sur le sujet. Du coup, on va laisser quelqu'un de Niette expliquer ses motivations.
Ben voilà. Donc, avec Niette Édition, on a un collectif, on est on est à géométrie variable, mais on est plusieurs, on va dire environ 4-5, un peu partout en France, dans différents endroits en France, et on est retombé dans nos étagères là sur ce petit bouquin qui avait été fait donc il y a une vingtaine d'années, et on n'avait que des exemplaires hyper, enfin tout fatigués, tout décollé machin, ou les feuilles partaient, des trucs qui avaient été beaucoup utilisés
ou mal encollés,
mais en tout cas qui avaient été beaucoup lus. Et eh ben, ça nous a bien chauffé. On a trouvé que c'était un super matériel. On a trouvé que c'était une porte d'entrée dans la prison, pas vraiment, mais une porte d'entrée sur le monde carcéral qui était assez intelligente. Ce truc d'essence, effectivement, comme tu disais, qui parlait, je pense qu'il parle à pas mal de gens, et qui ce truc de ouais, ce rapport au corps, en fait, on trouvait que c'était assez intelligent et assez fin. Au moins en façon de chapitrer le truc. Donc on avait juste ce livre en main, on a mené une petite enquête qui nous a tiré des fils, et puis on est arrivé à recontacter des personnes, et on leur a proposé de refaire une version en sortant de la région lilloise, en essayant de rentrer, de donner des exemples un peu plus de différentes tôles en France, essayant d'ouvrir au CRA qui existait déjà à l'époque, mais c'est vrai que c'était pas du tout dans les c'était pas trop dans les enfin c'était pas un truc qui était remué comme aujourd'hui. On a essayé d'ouvrir à
d'actualiser aussi vachement, quoi.
D'actualiser, ouais, voilà, poser un peu des thématiques de maintenant, actualisée. Il y a notamment cette histoire de... On pensait que, par exemple, l'introduction des téléphones, ça changeait beaucoup, beaucoup de choses sur le rapport aux autres, le rapport à la famille, le contact Louis. Tout ça, il y avait quelques... Et puis plein d'évolutions aussi dans les lois. Plein d'évolutions dans les conditions de détention. On s'est dit qu'il y avait un petit... Donc une mise à jour à faire et sur le et au niveau temporel et aussi au niveau géographique à ouvrir en fait un peu le truc. Et ben on est hyper content de, on est hyper content du résultat. Le truc c'est très très bien. Il y a vraiment un rapport enfin avec plein de niveaux de langues différents qui bougent un peu, plein de trucs de points de vue qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur. Il y a vraiment des focales qui bougent un peu, des trucs qui sont très, très centrés sur le corps. Mais en fait, c'est surtout un gros prétexte, hein. Désolé de dire ça, mais c'est un gros prétexte pour parler de, un peu de tous les sujets qui touchent à l'anticarcéral, enfin au carcéral, à l'anticarcéral maintenant, en France. Et aussi, pareil, ouais, pour l'enfant, vas-y, vas-y.
Non, je voulais réagir sur le truc, sur l'écriture, je trouve, effectivement, et c'est incroyablement bien écrit, et aussi, ça me rend perplexe de comment les ajouts, ils ont été faits, parce que ça se voit pas quand tu lis, le contenu qui est rajouté dans les textes, tu vois pas qu'il y a eu un ajout, quoi, t'as l'impression que c'est le texte d'origine, parce que c'est vraiment hyper fluide, ça se lit trop bien, ça...
Ça a été pas mal de questions justement de est-ce qu'il faut partir du texte de base et mettre des notes de bas de page ou mettre des tu vois ou des addendums. En fait on se posait un peu des questions et en fait finalement on s'est retrouvé à travailler par mail quasiment, c'est quasiment jamais rencontré, enfin jamais rencontré, on n'a jamais travaillé en présentiel, mais on a fait un peu des allers-retours. Là quand je dis on, c'est le côté édition et le côté écriture, quoi, où il y a eu des allers-retours en fait par mail, quelques coups de téléphone pour dire, voilà, pour se tenir au courant de l'évolution. Mais vous êtes reparti de, vous êtes un peu basé sur ce qui existait et vous avez rajouté seul les.
On s'est complètement basé sur ce qui avait été écrit. Juste, c'était un peu le défi, c'est de garder la tournure, le souffle qu'il y avait. Il y avait quelque chose de très cyclique, enfin des choses qui nous paraissaient vraiment importantes à garder, parce que c'est ce qui avait fait un peu le sel de la première édition et ce pourquoi les gens avaient aimé, et même vous, c'est sûrement aussi pour ça que vous nous proposiez le rééditer, mais du coup c'était quand même ajouter beaucoup de choses. Sans toucher à tout ça, c'était un vrai casse-tête. Et du coup, l'idée là, ça a été de travailler essentiellement à deux, et avec essayer de pointer dans le texte ce qui pouvait jarter. Il y avait peu de choses, mais surtout tout ce qui manquait. Et à partir de là, d'essayer de réécrire en gardant un peu le même esprit, le même souffle.
Et notamment parce que les textes étaient d'abord des épisodes dans un journal qui n'y avait pas l'intention première d'en faire un livre. Du coup, il y avait des fois des déséquilibres, c'est-à-dire les premiers articles étaient beaucoup plus réduits que d'autres. Et donc, il a fallu. On a voulu que ce soit plus équilibré rien qu'en. D'un chapitre à l'autre. Et du coup, une fois qu'étaient pointés un peu toutes les lacunes qu'il pouvait y avoir, ou il fallait aussi essayer d'intégrer un certain nombre de thématiques qui sont nouvelles parce que l'actualité est forcément différente, mais aussi parce qu'on a des regards différents, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, à l'époque, c'est en le relisant, on s'est rendu compte qu'il y avait certains aspects de la question qui nous semblent aujourd'hui évidents à aborder, qui ne l'avaient pas été à l'époque, parce que c'est pas juste nous individuellement, mais que socialement, on ne portait pas l'attention sur les mêmes questions, notamment, par exemple, sur la place des femmes en prison, sur les spécificités que c'est d'être trans en prison, ou, je sais pas, vous pourrez trouver d'autres exemples comme ça, mais il y a des choses, dans l'écriture même qui ont été modifiées, mais aussi des problématiques qui existaient moins, qui étaient là forcément, mais qu'on avait moins en évidence en tête, quoi.
Bah, du coup, on était bien contents de, justement de cette manière que vous avez eue de pouvoir tirer des fils à partir de ces cinq chapitres-là, enfin de ces cinq thématiques-là, et d'arriver à, justement à tirer des fils pour voilà, je redis, mais pour faire un peu un panel général de ce qui se passe en prison, de ce qui se passe autour de la prison.
Il y a d'autres ajouts, non, dans cette nouvelle édition, à part dans le corps des textes, il y a aussi parce qu'il y avait déjà des annexes, on n'en a pas parlé la première édition.
Ouais, les annexes, en gros, c'était deux lettres de prisonniers, enfin une lettre de prisonnier, une lettre de proche de prisonnière qui parlait des sens, donc qui figurait la fin, une liste des différents collectifs, radios, enfin des adresses utiles, en gros.
C'est écrit ou pas.
Oui, c'est vrai. c'est vrai. et puis aussi des conseils et infos pratiques pour les proches de prisonniers et prisonnières. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui existait dans la première édition.
Et donc ça, ça a été mis à jour aussi. Et du coup, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un autre texte qui était un peu prévu pour être à côté au début. Et qu'on trouvait que ça faisait sens de le mettre dedans, qui est un chapitre qui est consacré à la communication, enfin à la correspondance avec l'intérieur, intérieur-extérieur, qui est un peu une sorte de guide, pour un peu guider des gens qui aimeraient se lancer dans ce truc-là, avec plein de questions. Voilà, ça répond un peu à des questions de gens qui n'ont jamais écrit en prison. Les prisonniers.
C'est très très pratique. Ouais,
c'est très concret, et puis avec des questions naïves et des réponses très claires. Et voilà, quoi. Ça, on trouvait que ça faisait aussi sens de le rajouter en plus des adresses qui sont du coup qui sont des adresses un peu générales sur. Parce qu'il y a l'idée de. C'est un bouquin qui peut être destiné à des gens qui sont en prison, mais qui peut être aussi destiné à accompagner des gens autour, des proches, ou des gens qui s'intéressent à la question carcérale en général.
Et d'ailleurs, c'est. Vous, en termes de diffusion, c'est un peu quoi vos envies, dans quel. Enfin. À quel point, vers où vous avez envie de les diffuser ?
Je disais tout à l'heure que la première édition, la première édition était vraiment destinée au parloir. Là, c'est différent puisque les éditions Niette sont diffusées aussi en librairie et sur des infokiosques et évidemment aussi de la main à la main. Mais donc là, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une diffusion large. Et quand même de faire en sorte qu'il y ait une partie des livres qui, par l'intermédiaire de collectifs investis sur la question anticarcérale, puissent eux-mêmes les distribuer là où ça leur semble le mieux, pour des proches de personnes enfermées, mais aussi, évidemment, on espère pouvoir en envoyer le plus possible à l'intérieur, quoi.
Ouais, il y a vraiment ce trois. Il y a une diffusion en librairie avec un prix en librairie. Il y a une diffusion en infokiosque avec souvent du prix libre ou des prix. Les gens qui gèrent les infokiosques gèrent leur prix. Et il y a aussi, on a prévu, en fait, on a envie aussi de donner beaucoup d'exemplaires. Enfin, il y a des exemplaires disponibles si des collectifs anticarcéraux nous écoutent. Ils peuvent écrire à Niette Édition.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on nous a sollicité pour le ressortir, on ne voyait pas l'intérêt que ça soit juste un bouquin historique sorti d'il y a 20 ans et qui figure sur uniquement en librairie. Enfin, ça n'avait pas de sens pour nous, et que ça reste un outil, je ne sais pas si c'est militant, en tout cas un outil pour travailler la question anticarcérale. Ça, c'était vraiment. On s'est tout de suite mis d'accord là-dessus avec Niette, et voilà. Mais ça paraissait important. Et du coup, de le porter, de l'incarner comme on le fait ce soir, je pense qu'il faut vraiment que. En parler le plus possible et accompagner aussi des initiatives comme cette émission, mais sûrement ailleurs, aller voir des gens qui bossent vraiment contre l'atoll, quoi. Donc, ça a accompagné ça, quoi.
En tout cas, ce qu'on a trouvé assez saisissant en le relisant et en retravaillant dessus, c'est que il y a plein de choses qui étaient en fait des... Il y a une vingtaine d'années, un peu des directions que prenait la tôle, des tendances qu'on commençait à voir pointer et qui maintenant se sont complètement confirmées. Et du coup, ce qui était les positions qui étaient défendues à l'époque et les sujets qui étaient soulevés, ils sont. Voilà, c'est pas une archive, c'est absolument pas pour voir ce qui se produisait il y a 20 ans dans les tôles, c'est vraiment sur ce qui se passe aujourd'hui. Et toutes les tendances qu'on avait, voilà, qui pointaient à l'époque, elles se sont totalement confirmées, et ça rend le bouquin, je pense, encore plus pertinent et nécessaire aujourd'hui, quoi.
Et on va le voir un peu plus tard dans l'émission, en rentrant dans le concret du bouquin. Mais après, une petite musique... Vous écoutez Carapatage et plus particulièrement vous venez d'écouter la fraction Marchand de peur. Et si vous voulez, vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40 et Pitou vous répondra avec plaisir. Maintenant on va rentrer un peu dans le dur du livre. On va l'attaquer un peu chapitre par chapitre, et chaque chapitre c'est un sens en fait. Du coup on va un peu lire quelques extraits et à partir de là voir un peu. Et Alix, tu voulais commencer par
Du coup je vais commencer par lire un extrait du chapitre L'odorat, et c'est C'est un extrait qui parle de, du coup, de la perte de l'odorat quand on est enfermé. Et voilà, c'est un thème qui est aussi dans d'autres, à d'autres moments du livre, de comment être enfermé, ça a un impact sur les sens. Ce qui est aussi beaucoup dit, c'est à la fois l'impact pendant la détention, où ça, c'est un peu communément admis, mais aussi après, une fois la personne libérée, que l'impact d'avoir été enfermé, ça disparaît pas forcément le jour de la sortie, quoi. Alors. Mais le stress de la détention, conjugué aux différentes agressions olfactives, conduit parfois aussi à une dégradation partielle ou complète de la fonction sensorielle du nez, et ce, sans même contracter le Covid-19, dont l'un des symptômes constatés est la perte d'odorat. Notons que ce trouble en entraîne généralement un autre, puisque la fonction de l'olfaction est intimement liée à celle du goût. Étant donné la qualité de l'alimentation derrière les murs, les plus cyniques se diront que ce n'est pas bien grave, mais ce n'est pas eux qui crèvent la dalle. Cela débouche pourtant sur une perte d'appétit sensible, une baisse importante d'énergie et l'apparition de carences qui peuvent avoir des conséquences pénibles sur la santé physique et morale. Perdre partiellement la capacité de sentir les odeurs, ce que les médecins appellent dysosmie, est une expérience inconfortable. La perdre totalement, l'anosmie, est à la fois sérieux et dangereux. Beaucoup de personnes qui en souffrent sombrent dans de graves et longues périodes de dépression, car l'odorat est une fonction vitale qu'il s'agit de ne pas négliger, notamment en tôle. Les anciens le disent, continuer à humer, c'est résister. Pourtant, on a tendance à minimiser son importance et à ne pas être vigilante face à sa perte. C'est alors s'exposer au danger, car le nez ne sert pas uniquement à sentir et à respirer. Il a également pour fonction de nous alerter. L'odeur de la bouffe avariée, par exemple, est un signal d'alerte qui ne doit pas échapper aux prisonniers et aux prisonnières. On conserve généralement très mal les aliments en détention, du fait du manque de place ou de l'absence de réfrigérateur, comme dans certaines maisons d'arrêt où le système électrique ne permet pas le branchement de ce type d'appareil, inaccessible par ailleurs aux indigentes, puisqu'il faut payer pour les avoir.
Bah, du coup, comme tu disais, une thématique qui est pas mal traitée dans tout le livre, de parler de, des conséquences physiques et morales de l'enfermement sur le long terme et des dégâts parfois irréversibles que ça peut faire sur les personnes.
Alors, mais ce qu'on peut dire, c'est que... là, sur l'odorat, c'est vrai qu'il est plus question de la perte, mais que l'altération des sens, hein, d'une manière plus générale, c'est... Enfin, on voit qu'il y a des situations où c'est la perte, mais d'autres où c'est une acuité encore plus forte de certains sens, notamment, ce qui revient souvent, c'est sur l'ouïe, le fait qu'il y ait des stimulations ultra fortes et que c'est aussi, en étant enfermé, ce par quoi on va réussir à se repérer, à comprendre ce qui est en train de se passer au-delà de la porte, des murs, etc., qu'il y a ce rapport au sens qui est altéré, mais dans tous les sens, à la fois avec la perte et avec une espèce de surdéveloppement de certains sens. Et
c'est vrai aussi pour le toucher, où là on a les deux, en fait, vraiment, on est hypersensible au moindre frôlement, etc. Et en même temps, on perd le toucher à cause des surfaces hyper froides, l'environnement hyper humide, ce genre de choses. Donc en fait, on perd et à la fois on est constamment agressé.
Et là-dessus, donc, par exemple, sur le toucher, ça nous semblait plus flagrant encore, sur le fait que là, on parle de la prison en termes génériques, mais il est question de plein de situations très différentes selon l'endroit où on se trouve enfermé, c'est-à-dire selon la structure elle-même, mais c'est aussi le régime de détention dans lequel on se trouve. Et donc, évidemment, si on est en quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire, il se passe pas du tout la même chose en termes de stimulation des sens que si on se trouve dans une cellule de 9 mètres carrés à 3 personnes. Et donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il est question aussi d'enfermement de longue peine, mais aussi de choses qui peuvent atteindre le corps très immédiatement dès l'entrée en prison. Donc voilà, c'est une variété de situations qu'on essaye un peu de balayer, mais évidemment, t'as d'effets divers.
Et juste pour l'odorat, il y a effectivement dans l'extrait que tu as lu tout ce qui est problématique en termes de rapport à la bouffe, et notamment à la bouffe avariée, les histoires d'intoxication alimentaire, etc. Le fait de perdre l'odorat et donc le goût, c'est un vrai danger par rapport à ça, mais il y a aussi de manière beaucoup plus sensible encore les histoires d'incendie qui sont fréquentes en prison. Et l'alarme est généralement donnée par les prisonniers et prisonnières et pas du tout par les systèmes de détection qui sont soit défaillants, soit absents dans certaines parties de la prison. Du coup, on peut compter aussi que sur ces sens et le fait qu'ils soient altérés, c'est une mise en danger de manière très directe par rapport à effectivement ce qu'on peut nous vivre à l'extérieur. Voilà.
Et pour rebondir sur ces questions de l'extérieur, ces altérations-là, on sait qu'elles ont elles sont vraiment très fortes pendant le temps de l'enfermement, mais qu'après la libération, après la sortie, il y a un certain nombre d'effets de ces altérations qui perdurent, notamment, ce qui revient souvent, c'est sur la vue, sur le fait que de ne jamais avoir de perspective profonde en prison, il y a vraiment la vision qui en est modifiée à long terme. Et ça peut être des troubles visuels, mais aussi une acuité visuelle qui est diminuée. Et là, on touche à le fait que, après la peine, même une fois que c'est possible de sortir, il y a encore la peine, il y a encore les effets de cette peine qui restent physiques et psychiques. Par exemple, la question visuelle, ça peut être ces problèmes purement physiologiques d'altération de la vue, mais ça peut être aussi avec un certain nombre de moments dans la vie quotidienne à l'extérieur qui renvoie à ce qui a été vécu en prison, que ce soit des bruits, des bruits métalliques, des bruits qui peuvent renvoyer directement à des situations ultra-violentes qui ont été vécues à l'intérieur. Et cette modification des sens, elle reste à long terme, quoi.
Je pense que ça peut parler notamment à toutes les personnes là qui ces derniers mois ont vécu des Covid plus ou moins longs, etc., avec des pertes d'odorat, mais aussi plein d'autres choses. Ça passe par l'orthophoniste, l'ophtalmo. Enfin, on est obligé de faire de la rééducation tout le temps. En fait, les personnes qui sortent de prison sont généralement précarisées, n'ont pas forcément ni l'occasion ni les moyens de passer par là, et du coup, on traîne derrière des carences et des troubles sensitifs pendant hyper longtemps. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, là, l'anticarcéral. Il faut dénoncer les choses, il faut faire passer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, etc. Il y a aussi tout un pan à voir aussi sur ces histoires d'accompagnement de gens qui en sortent, et notamment de santé communautaire, etc. C'est un vrai boulot à faire, en fait, pour les personnes qui sortent. On fait beaucoup, en tout cas de plus en plus, pour les personnes qui passent en garde à vue, derrière, avec des on accompagne les gens qui ont subi des gardes à vue un peu violentes, etc. Et je pense que l'accompagnement au sortir d'une détention, c'est aussi une piste dans l'anticarcéral.
Je propose un petit extrait du coup du chapitre suivant, qui est le chapitre sur le goût. Ces complications inhérentes au système carcéral sont pénibles à vivre, tout comme de devoir bouffer de la merde. Mais nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'il existe malgré tout une vie en prison. Nous ne devons jamais cesser de le répéter. D'abord pour ceux et celles qui sont derrière les barreaux, mais également parce qu'affirmer cela, c'est aussi lutter contre la tôle, peut-être plus efficacement d'ailleurs qu'en dénonçant l'horreur qu'elle génère. Ainsi, certains et certaines font rimer cuisine avec résistance et bouffe avec lutte contre la morosité et la résignation. Le code de procédure pénale prévoit que les vivres vendus en cantine ne doivent comporter que des denrées qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation. Mais dans les faits, vous pouvez cuisiner vous-même en cellule avec les produits que vous avez cantinés, échangés, récupérés ou gardés de la gamelle du midi pour les réutiliser en les transformant le soir.
Voilà, juste on touche à un des buts premiers quand j'ai écrit les premiers articles là. C'était vraiment de sortir de ce truc un peu plombant qu'on a de manière inévitable quand on parle de l'atoll et qu'on lutte contre l'atoll. On a tendance à dénoncer ce qui se passe à l'intérieur, on le dénonçait beaucoup et en fait à quel point on lutte contre la prison en faisant ça, c'est pas si net. En gros, le problème c'est que souvent on a tendance à venir relayer la peur que génère la prison. Or, la prison fonctionne, son utilité, elle est pas tant de punir, elle est vraiment de faire peur et de tenir un ensemble de gens sous le joug de cette peur. Et du coup, l'idée, c'était aussi de se dire, bon, certes, la prison nous fait des choses, elle nous fait subir un certain nombre de choses, mais aussi il y a une manière d'habiter la prison. Alors ça peut paraître paradoxal comme ça, mais il y a aussi des choses qu'on peut, alors peut-être pas lui faire subir, mais en tout cas des manières de résister à ce qu'elle nous fait, et que ça nous paraissait vraiment important, voire primordial, de mettre ça en avant également, et pas juste le discours, encore une fois, qui peut faire peur. Et donc là, sur la bouffe, c'est très... c'est criant. Il y a moyen de résister de plein de manières différentes au fait d'avoir de la bouffe de merde, d'en avoir trop peu, etc. Et que du coup... J'espère que ça transparaît suffisamment dans le livre et que l'équilibre est le bon entre dénoncer, effectivement, on l'a vu là, on vient d'en parler, ce qui nous est fait, ce que l'enfermement fait à nos sens, mais également de quelle manière on peut résister à ça à travers ces mêmes sens.
Mais je crois que le chapitre sur le goût, c'est celui qui est... Enfin, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est celui qui est le plus parlant sur le fait que il y a cette possibilité de reprendre la main sur ce qui se passe sur sa propre vie en prison. Et notamment, dans le bouquin, il y a le choix de jamais utiliser le mot de détenu, comme si la personne était totalement possédée par la prison, mais qu'elle est... en détention, parce qu'il y a une intention il y a cette intention qui existe, mais elle n'est pas possédée et elle a encore son autonomie et dans le fait de cuisiner et de prendre soin de soi par ce biais-là, de certaines formes de plaisir ou de prendre soin. Cette question de l'autonomie, je pense qu'elle est vraiment importante et en fait, au-delà de... Évidemment, il est tout le temps question d'essence, mais au-delà, il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Et notamment sur la bouffe, il y a toute cette question aussi du fait que la cantine, c'est un business pour la tôle. Et on voit là combien, que ce soit sur la cantine ou sur d'autres choses qui sont devenues des intérêts financiers, qui est un business carcéral. Et c'est aussi... voilà, des enjeux qui sont assez complexes sur le... C'est assez ambigu, en fait, sur la cantine, mais aussi sur le travail, par exemple, de cette possibilité à la fois de se réapproprier un certain nombre de choses et d'en tirer une forme d'autonomie, et en même temps d'être complètement soumis à une volonté d'exploitation par la prison. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce sujet-là, mais...
Si je peux en placer une sur le travail en prison et le goût, justement, là, ils sont en train de démarrer un truc qui est assez dégueulasse à la prison des Baumettes à Marseille. En fait, ils font un restaurant qui s'appelle Les Baumets, avec un super jeu de mots. Et qui, du coup, il faut s'inscrire et les gens rentrent en détention et sont servis. Tout est cuisiné et servi par des détenus qui sont genre en sas, le sas là, le truc d'accompagnement à la sortie, genre une sorte de chantier de réinsertion. Et on n'a pas très bien compris à qui ou à quoi c'était destiné un peu dans l'imaginaire, mais C'est pour des gens qui veulent rentrer en prison le temps d'un repas et voilà, bien manger, se faire ses biens par des détenus et ressortir. Et on trouvait ça assez dégueulasse.
Ça l'est. Ça l'est. Au-delà de... Ouais.
Et juste pour sur les histoires de bouffe, de cantine, de possibilité de travailler, tout ça, la critique qu'on retrouve souvent, c'est le travail, c'est de l'exploitation, et c'en est, mais ça l'est aussi à l'extérieur, c'est de l'esclavage, et ça l'est aussi à l'extérieur. Et du coup, s'en tenir juste à ça, je pense qu'on loupe un truc aussi, on est toujours... je pense que vraiment, la critique abolitionniste, en tout cas pour moi, m'a appris de manière très pratique ce qu'était la dialectique. Et que, par exemple, le travail, certes, quand on travaille à l'intérieur de la prison, on est exploité, etc. Mais ça permet aussi de croiser du monde, de s'organiser, de bouger dans l'atoll. Et tout ça, ça permet des mutineries, ça permet des évasions. Et du coup, il faut toujours avoir ça en tête, c'est que la critique des choses, il faut qu'elle soit dialectique. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a essayé de conserver dans ce bouquin.
Un autre truc qui apparaît aussi un peu dans le chapitre sur le fait des sens comme résistance et tout ça, il y a aussi sur la... aussi avec la solidarité extérieure et par exemple les projections de nourriture, de colis avec de la nourriture dedans qui sont jetées par-dessus les murs d'enceinte ou alors la bouffe qui rentre discrètement au parloir. Enfin, il y a aussi voilà, sur la résistance, il y a comment une personne prisonnière résiste à l'intérieur, mais aussi à ce qui est beaucoup abordé dans ce livre aussi, c'est cette solidarité intérieure-extérieure, et qui je pense était un truc assez central dans votre collectif.
Bah, l'idée étant que ouais, on individualise à fond en prison et on tend vers ça, même si on reste avec des prisons surpeuplées, on est 4 ou 5 parfois entassés dans une cellule, mais l'idée c'est aussi de casser ça, mais qu'il y a vraiment plein de choses collectives qui se font, que ça soit de l'extérieur vers l'intérieur, à l'intérieur à l'intérieur, et puis ouais, comme tu dis, bon, il n'y a pas moyen de passer plein de choses. Voilà, c'était aussi de le rappeler, avec l'équilibre qu'il faut dans tout ça, de ne pas griller non plus un certain nombre de choses. Et c'est toujours compliqué. En fait, c'est ça peut-être aussi, moi je me dis, qui diffère d'un boulot sociologique où les gens n'ont pas trop ce souci. Et plutôt, c'est plutôt bien pour elles et pour eux quand ils ont des trucs et astuces de les balancer dans un bouquin, parce que je sais pas, ça fait bien. En fait, le seul souci, c'est que c'est lu et que c'est évidemment lu aussi par la paix et par des gens qui mettent tout en œuvre pour que ça cesse à l'intérieur. Du coup, l'idée, c'est ça, c'était aussi de voir qu'est-ce qui est su par tout le monde, et du coup, bon, ça illustre. Et puis le reste, bah, juste en fait, si vous êtes concerné, vous le savez, et puis bah, sinon, vous le saurez à un moment donné, mais voilà. Mais en tout cas, c'était un de nos soucis aussi, quoi.
Moi, je vais faire un pas de côté en prenant un bout de chapitre sur le toucher qui parle un peu du parallèle qui a beaucoup été fait entre le confinement et la prison, et qui revient un peu sur les raisons qui ont amené pas mal de gens à faire ces parallèles. Et du coup, qui dit cette impression, et qui surtout, pardon, désolé, qui dit qu'il y a, ça, il y a une bonne partie de ces parallèles qui manque toute la question du virus et de la peur du virus en elle-même, qui fait que c'est pas simplement la question répressive qui a amené à ce confinement, mais aussi le rapport à un virus dont on connaît pas grand-chose. Et du coup, ça dit: cette impression, elle a été accentuée à notre sens par le fait que beaucoup de personnes qui ont vécu ces 2 mois dans la crainte d'un virus dont on ne savait rien ou pas grand-chose, et qui les ont conduites à restreindre radicalement toute forme de contact physique, par précaution, par peur, par respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires, beaucoup de gens se sont abstenus ou ont été privés du jour au lendemain de tout contact physique, au dehors et parfois même à l'intérieur de leur propre foyer.
Il n'a pas fallu longtemps pour que le besoin terriblement humain de voir des visages, de serrer des mains, d'embrasser des proches ou des inconnus, de se rassembler, d'avoir des contacts physiques, bref, d'éprouver leur corps, se fasse sentir. C'est sûrement sur ce point d'achoppement entre confinement sécurito-sanitaire et distanciation sociale que la comparaison entre confinement et tôle est la plus opérante. Car un nombre exceptionnel de personnes, isolées ou non, ont fait l'expérience cuisante de ce que les Danois appellent le hudsult, la faim de peau, qui désigne un manque bien particulier de chaleur humaine. Mais une fois encore, c'est en prison que cette carence s'est fait le plus cruellement ressentir, puisque les parloirs ont été suspendus, les déplacements fortement réduits et les contacts limités à leur plus simple expression, durcissant considérablement l'expérience déjà douloureuse de l'emprisonnement. Cela met en lumière deux choses. Le toucher, au départ, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas absent des tôles, et il est par ailleurs moyen et manifestation de résistance.
Très beau passage, hein.
Mais du coup, dans cette...
Pardon. Vas-y.
Non, mais dans la réédition, j'ai l'impression qu'un des thèmes nouveaux, c'est ce truc du Covid en prison, et je pense qu'effectivement, ça a complètement chamboulé, enfin, et niqué le quotidien des gens à l'intérieur, quoi, que c'est... Et qu'effectivement... Enfin, et ce truc que, oui... Le confinement qui a été dur pour les gens dehors, mais en fait, rien à voir avec ce que ça a été pour les gens dedans de se retrouver privé du minimum que tu as de contact quand tu es en prison, quoi. Et ou du minimum d'activité que tu as.
Ça a été privé de parloir, mais ça a été aussi, du coup, souvent du 23h sur 24 en cellule. Et je pense que ça a été aussi, malheureusement, l'occasion pour plein de syndicats de surveillants de se remettre à pleurer, comme ils aiment bien pleurer, de dire qu'il leur fallait plus de moyens, plus de matériel, et qu'il fallait travailler moins, et que du coup, ils faisaient moins de mouvements, ils faisaient moins de mouvements dans l'atoll. Ça leur a permis aussi, eux, de grappiller plein de trucs sur leur quotidien.
Ils ont demandé plus de matériel, mais en tout cas, ni gants, ni masques, ni quoi que ce soit, vu qu'ils n'en mettaient pas, mais qu'ils mettaient en danger, vu que personne ne savait non plus la dangerosité des choses, mais eux avaient un contact avec l'extérieur, et donc étaient potentiellement
contaminés.
Enfin, ouais. En tout cas, ouais. Et il y a eu beaucoup de mouvements de prisonniers qui se sont mobilisés par rapport à ça. C'est juste qu'ils étaient enfermés, sans possibilité de se protéger elles et eux, parce que le gel hydroalcoolique était interdit, les masques également pour des raisons de sécurité, et qu'en face, les personnes qui étaient possiblement vecteurs ou vectrices du virus ne faisaient absolument pas attention. Donc,
Alors au moment où on a retravaillé le texte, en fait, on était encore, c'était il y a à peu près un an, et en fait, on était beaucoup plus qu'aujourd'hui dans cette ambiance de Covid ultra présent. Là, maintenant, on sait qu'il y a toujours du Covid, mais bon, ça fait vraiment beaucoup moins partie des discussions et des sujets médiatiques et tout ça, et puis moins de gens malades autour de nous, etc. Et du coup, c'est un sujet à ce moment-là qui nous semblait important parce que ça avait modifié la vie en tôle pendant des mois et des mois, mais aussi parce qu'en fait, il en est resté quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui étaient mises en place pendant le Covid qui, en fait, on voit encore aujourd'hui, sont restées. Et il me semble que c'est dans une émission que vous avez faite récemment où vous parliez de cet exemple des parloirs à Muret où, en fait, ils avaient mis des tables super larges de manière à ce que d'un côté et de l'autre de la table, on ne puisse pas se toucher, et que maintenant, voilà, c'est plus la question du Covid qui justifiait ces tables-là, mais c'est soi-disant les trafics. Et ce qui reste, c'est, voilà, sous prétexte de Covid, l'impossibilité de se toucher au parloir. Et de la même façon, il y a eu des jugements qui ont été faits en visio, sous prétexte de Covid, et des tas de procès qui sont passés en visio, et c'est quelque chose qui est resté un certain nombre de fois, de cas, et voilà, ça leur a permis de gagner encore en possibilité de mesures répressives ou de contrôle, etc., quoi.
Et pareil pour la médecine, enfin il y a la justice en distanciel et la médecine en distanciel aussi. Déjà, on sait ce que c'est la médecine en tôle. Bon, à partir du moment où en plus il n'y a même plus d'examen direct, etc. Et aussi la possibilité de se mouvoir dans la tôle. Bon voilà, en fait, il y a moyen en fait d'être jugé, d'être soigné, d'être tout sans bouger de sa cellule. Bon, on voit bien ce que ça peut avoir d'effet délétère sur la personne.
Vous dites à un moment, je pense, en prison, c'était le confinement, dans le confinement.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste assignation à résidence. Peut-être que ça s'approche plus ça pour les personnes qui ont vécu un confinement un peu dur. Et il y en a eu un certain nombre. Mais ce n'était pas vraiment la tôle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les tôlards et tôlardes, c'était un confinement à l'intérieur du confinement. Ça, c'est certain, quoi.
On va faire une petite pause et on reprendra après. Elite Chelou de Gultra Sound System. Dans pas très longtemps. Peut-être.
On peut chanter sinon. Alors.
Ça marche pas.
Bon, on va chanter. Tant pis pour vous.
Bon, ben, on le tente. Voilà. Hein. Bah, peut-être. Bah, on continue, non, tant pis.
Sinon, on fait pas de pause, hein, et puis on peut.
Bah, on va aller au chapitre si vous
voulez partant.
Allons-y.
Allez.
Bah, problème de fichier, désolé. Mais c'est super, écoutez. Sur YouTube.
Tu vas nous parler de. Tu vas nous lire un extrait du chapitre sur la vue.
Oui, du coup, je vais lire un extrait du chapitre sur la vue. Pour bien comprendre l'extrait, ça parle de la vidéosurveillance. Déjà, dans les pages d'avant, ça parle de la vidéosurveillance. Notamment, comment la vidéosurveillance, elle est plus forte aujourd'hui, enfin, que le nombre de caméras augmente. Quand il y a des violences en prison, il n'y a pas forcément d'accès aux images, par contre, qui est donné, que l'accès aux images, ça va plus pour quand la pénitentiaire a besoin d'accéder à des images pour voir ce qui se passe. Voilà, du coup, je vais commencer l'extrait. Du fait de l'asymétrie dans les procédures très rapides lorsqu'il s'agit d'envoyer prisonniers et prisonnières devant les prétoires et d'une lenteur remarquable quand il s'agit de prouver la culpabilité du personnel pénitentiaire, les enregistrements ne servent qu'à la paix, puisqu'ils sont généralement déjà effacés lorsque les plaignantes en demandent l'accès. Le défenseur des droits estime qu'il faudrait conserver les images pendant une durée de 6 mois pour qu'elle soit exploitable et qu'elle puisse participer à protéger effectivement les victimes. À moins que des hackers parviennent à capter et à rendre publiques des images de vidéosurveillance piratées qui montreraient des mauvais traitements de la part des geôliers, comme à Téhéran en août 2021. Au lieu de ça, la vidéosurveillance qui est présentée comme un remède par les tenants du tout sécuritaire sert juste à fliquer un peu plus la population pénale et porte atteinte quotidiennement à l'intimité des personnes incarcérées. Notons à cet égard qu'il n'est pas autorisé de filmer dans les sanitaires et dans les cellules des prisonniers et des prisonnières, mais que depuis qu'un arrêté créé spécifiquement pour assurer la surveillance de Salah Abdeslam, l'AP juge l'utilisation de la vidéosurveillance dans les chambres d'hôpital ou les cellules des prisons et des prisonnières dont l'évasion ou le suicide pourrait avoir un impact important sur l'ordre public eut égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération, ou comment une nouvelle fois se servir de l'exception pour rendre acceptable ce qui ne l'aurait jamais été auparavant. Et du coup, ouais, cet extrait, je le trouvais intéressant parce qu'il montre aussi... Enfin, le développement des technologies, comment c'est utilisé à l'intérieur des tôles, comment aussi il y a l'ambivalence entre enfin voilà, comment les discours tout sécuritaires ont fait ça, limite s'ils disent pas que les vidéos sur que la vidéosurveillance dans les prisons c'est pour le bien des prisonniers, parce que sinon ça rendrait la prison comme peu sûre, et que du coup grâce à aux caméras ça va, voilà, un peu le même discours que sur la construction de prison, on va construire des nouvelles tôles pour qu'il y ait moins de surpopulation, pour le bien-être des prisonniers on construit des prisons, et là pour le bien-être des prisonniers on met des caméras de partout, alors qu'en fait c'est hyper intrusif et que ça a des conséquences qui peuvent être terribles pour les gens qui sont incarcérés, quoi.
En termes psychologiques, c'est clair.
C'est vraiment l'aboutissement de la logique du panoptique de Bentham, où il faut qu'à tout moment, on intègre l'idée que la surveillance est partout autour, mais on devient son propre agent de contrôle, en sachant que l'œil est omniprésent. Mais oui, en effet, sur la vidéosurveillance, ça pose toute cette question du rôle des prétendus progrès techniques, et notamment, on le voit dans les prisons les plus récentes, le fait que très souvent il est plutôt question de déshumanisation des modes d'incarcération que d'amélioration des conditions de vie, quoi.
Et oui, enfin, je pense des témoignages de personnes, encore une fois au Baumettes là, qui il y a eu les Baumettes historiques ont été détruites, enfin ils ont construit un deuxième bâtiment qui est un peu plus moderne soi-disant. Et en fait, les gens regrettent la promiscuité, en fait, en disant, on se retrouve... Enfin, c'est assez... c'est ouf à concevoir, en fait. C'est dégueulasse à dire. Mais des gens, ils disaient, en fait, on préfère être dans des trucs où on est ensemble, mal, dans des mauvaises conditions, plutôt que dans des trucs hyper aseptisés, filmés, surveillés, avec toutes les commandes se font manuellement, toutes les commandes des portes automatiques se font manuellement. C'est on atteint un truc un peu fou dans la conception de dire, en fait, on préfère vivre mal que dans ces fausses améliorations.
Mais ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure sur ce parallèle entre le confinement et la prison, c'est-à-dire que ce dont les gens ont le plus souffert, c'était l'absence de lien social, et que dans ces nouvelles prisons, oui, il y a peut-être un peu plus de confort. Ouais, c'est plus ripolliné, c'est plus... Il y a la douche à l'intérieur de la cellule, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est des améliorations... matériels qui sont des prétextes à détruire encore plus le lien social, et c'est ça qui fait que c'est d'autant plus difficile, quoi.
C'est au tout début de Surveiller et punir de Foucault, là il y a un texte sur le bagne et sur la chaîne qu'on met au pied des bagnards, et ça a duré un certain temps, et puis c'est devenu intolérable pour l'opinion publique, et du coup ensuite ils ont été transférés en voiture, où ils étaient entassés à plein pour aller jusqu'au lieu où ils devaient casser des choses, etc. Et en fait le progrès, il est toujours sur une variable autour de l'intolérable. Au final, juste la voiture qui emmenait les gens entassés, elle n'était pas vraiment mieux que les histoires de chaînes, etc. Et on en est... C'est exactement la même chose en prison. Tous les progrès qu'on nous dit, en fait, c'est pas des progrès. Et même nous, des fois, on parle en termes de progrès. En fait, c'est pas des progrès, c'est juste une déclinaison de quelque chose qui, dans 20 ans, sera jugé intolérable également. Juste, c'est la prison qui est intolérable. Enfin, on fait que reculer la chose, quoi.
Et puis un truc un peu de l'administration pénitentiaire qui, pour le coup, aussi lâche rien. Et puis dès qu'en fait, ils font semblant de lâcher un truc, ils récupèrent de l'autre côté.
Ah, peut-être je peux en profiter pour lire l'extrait sur tiré du chapitre sur Louis, qui parle un peu de ça, justement. Qui dit « Pour certaines personnes étrangères au monde carcéral, ce service de téléphonie, du coup il s'agit du service de téléphonie mobile qui est de plus en plus, là justement dans les nouvelles prisons, mis directement dans les cellules, pour contextualiser un peu. Donc pour certaines personnes étrangères au monde carcéral, ce service de téléphonie, pourtant élémentaire, peut être perçu comme un luxe et discréditer toute lutte de prisonniers et de prisonnières à l'intérieur, au prétexte qu'ils n'ont pas ou plus de raison de se plaindre. il convient d'expliquer à ces âmes charitables, sans s'énerver, que le fait de pouvoir téléphoner de sa cellule, s'il réduit l'isolement et prévient en partie certaines tentatives de suicide, ne résout pas l'ensemble des problèmes liés à l'enfermement. Pire, il les exacerbe en rappelant de manière cuisante la condition du tolard ou de la tolarde qui fait l'épreuve de son impuissance et de sa réclusion au sein du monde des vivants. En plus de se savoir écouter et de ne pouvoir pratiquement rien dire de peur de mettre en difficulté d'autres personnes, d'être puni ou d'être humilié en s'entendant répéter sa conversation devant les autres par des matons mange-merde, le prisonnier ou la prisonnière peut se voir supprimer ce droit à tout moment, rappelant que toute avancée en tôle contribue en retour à élargir le spectre des sanctions. C'est triste à dire, mais le progrès, en 11, c'est au final toujours plus de punitions.
Pas grand chose à rajouter.
Bah ouais, je trouve ça très bien expliqué dans ce passage, et c'est redit à d'autres endroits sur d'autres exemples que la téléphonie, ça, sur
les UVF.
Les UVF notamment, ouais. Et que oui, c'est très bien dit, ce truc de, en fait, plus il y a le droit, plus ils ouvrent des nouveaux droits, plus c'est en fait des choses qu'ils peuvent utiliser comme moyen de pression et de répression. Et on parlait des activités tout à l'heure, ben aussi c'est les mêmes fonctionnements, quoi. Ben ouais, c'est précieux que de pouvoir sortir de sa cellule plus qu'une heure par jour et tout. Et en même temps, ben c'est pas pour tout le monde, ça se mérite, et il faut voilà, c'est un moyen de pression sur toi et de tri, de hiérarchie entre les prisonniers et prisonnières, ces trucs d'activité.
Oui, puis c'est des choses qui sont soit pensées, enfin vraiment par l'administration pénitentiaire, soit c'est aussi des choses qui sont à disposition des matons et matones qui se disent en fait j'ai sous la main le fait de pouvoir supprimer telle ou telle chose et j'ai le droit de le faire, en tout cas je prends le droit de le faire juste pour nuire aux personnes qui sont incarcérées. Il y a vraiment ces deux choses, il y a un truc pensé, voulu, et puis il y a un truc, c'est la possibilité en plus à l'intérieur de faire tout ce qu'on veut, et pratiquement tout ce qu'on veut. Donc il y a toujours ces histoires de vidéosurveillance, etc. Mais c'est ce qu'on explique un peu, c'est que les angles de prise de vue, très rapidement, les matons et matones l'intègrent et ils peuvent faire leur truc dans leur coin sans que ça soit vu. Mais c'est pareil pour tout. Ouais.
Assez fameux dans certains commissariats, du coup, de tous ces angles de vue, de voir dans quelle pièce on peut plus facilement tabasser que d'autres.
Ouais. Et puis peut-être juste pour revenir sur les histoires de vidéosurveillance, vous avez ouvert là sur les brèves et sur l'annonce d'une manifestation ce week-end à Saint-Denis, enfin, c'est à Saint-Denis la manif, oui. Ouais. Par rapport à Xani, c'est pareil, je pense que la famille demande, comme à peu près à chaque fois, l'accès aux vidéos, puisque souvent il y en a, et que autant c'est à charge dès qu'ils peuvent et qu'ils les retrouvent immédiatement, dès qu'il y a un souci ou que c'est un peu flou, on met des mois, voire des années à récupérer ces vidéos, et c'est à peu près systématique pour tous les cas de mort ou de blessures graves sur des rodéos ou sur des poursuites avec les flics. C'est exactement la même chose dehors que dedans, quoi.
Ouais, j'y pensais en lisant l'extrait tout à l'heure. Il y a, enfin, du coup, la famille dit qu'il y a une vingtaine de caméras sur le trajet de la course-poursuite jusqu'à l'autoroute, et que là il y a zéro vidéo pour l'instant qui sont transmises et retrouvées.
C'est complètement effarant, mais c'est systématique.
Et ben, je crois qu'on a malheureusement fini pour ce soir. Je crois que j'aurais bien continué pendant encore un moment. Et du coup, c'était Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Vous pourrez retrouver cette émission sur le blog carapatage.noblogs.org et aussi sur votre appli de podcast préférée. Et on se retrouve dans 2 semaines pour parler du contrôle des allocataires. D'ici là, vous pouvez nous écrire, toujours, à carapatage@riseup.net
ou par courrier au 4 Villa Stendhal. Bonne soirée.
75 020 Paris.
Ah oui.
Un dernier petit mot.
Ouais, vas-y. Eh ben, merci à vous déjà pour l'invitation. On voulait remercier aussi Hélène qui avait fait les illustrations du bouquin. Et voilà.
Bah, merci à vous d'être venu.
Merci.
Merci. Hyper intéressant de
discuter. Au revoir.
Salut.
Il y a des tas de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature la rive où fleurit l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, dans les auberges à coups de fusil, sans douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil. Ses trois pots de géranium et sa part de soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de Carrare, avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares, avec une toiture en carton. Y'a pas besoin de crâner dans son automobile pour qu'une poule vous tombe dans les bras. Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles qu'avec les stars de cinéma. Sur la zone, y'a pas de sable jaune, ni de parasol, ni de mer d'azur. On s'invite à bouffer de la frite autour d'un grand quille de vin pur. Sous la brise, on peut à sa guise s'endormir à poil au soleil, tout comme les nudistes à Nice ou au soleil. Sur la zone, y'a des clefs qui s'engueulent à travers les clôtures, des oies, des pigeons, des canards, des poules qui tranquillement s'en vont à l'aventure, mais pas comme celles des grands boulevards. Les savants qui voudraient étudier nos coutumes seraient bien obligés de constater que la grenouille du trottoir et le poisson du bitume n'arrivent pas à s'acclimater. Sur la zone, bien sûr que la faune n'est pas celle de tous les pays. On y chasse en guise de bécasse, du rat, de la puce et de la souris. On pratique les jeux athlétiques et les sports qui piquent à la fois. On a des balançoires, un tiré des chevaux de bois sur la zone. Y a des tas d'ambitieux qui s'acharnent à la peine pour ramasser 300 000 francs. De quoi s'acheter plus tard un castel en Touraine pour vraiment pas être au courant. Y'a qu'à s'amener comme ça, simplement un dimanche, avec des planches et des outils, pour se construire soi-même sa villa des pervenches, où son petit chalet, ça me suffit. Sur la zone, c'est le péril jaune, les moutards poussent comme du chinois. On oublie l'hydrothérapie, quand on prend son eau sur son toit. Faut s'y faire, et chez les aunières, on chuchote en se montrant du doigt. Celle qu'on porte tous les ans, de bougingue à la fois, sur la zone.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage contre toutes les cages.